Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
C'est triste, on a fait tout le voyage, c'est notre première fois à Paris. C'est le monument le plus célèbre, on arrive et il est fermé.
Quand on vous dit grève dans toute la France, c'est vraiment partout, même la Tour Eiffel, Pierre, est fermée.
The cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Évidemment, les touristes sont dépités, vous les avez entendus, et tout comme vous tous, Français, nous allons vous entendre, grévistes, non-grévistes, ceux qui sont allés travailler, les franciliens, qui ont découvert que finalement, il y avait moins d'embouteillages que d'habitude. En tout cas, sur les rails, globalement, c'était la galère, sauf pour d'infimes chanceux.
On a attendu 20 minutes. C'était un train qui était prévu à 9h45 de Seclin et il est passé à 10h10 à peu près. Mais on est arrivé. On a beaucoup de chance.
Voilà, on a beaucoup de chance. 2 TER sur plus d'un millier dans la région Hauts-de-France. C'est pour vous dire, l'autre temps fort de ce jeudi, bien sûr, ce sont les manifestations. Les grévistes ont battu le pavé dès ce matin à Marseille, à Montpellier, à Nantes et à Lyon.
Ils veulent nous faire travailler beaucoup plus vieux et ils veulent nous faire partir à la retraite beaucoup plus pauvres. Il est absolument hors de question que les travailleurs acceptent ce genre de recul, crever au boulot, il y en a ras-le-bol.
Nous suivrons cela, le cortège parisien s'élancera à 14h et puis nous verrons comment le gouvernement réagit à cette grande journée de contestation. Dans ce journal également, le verdict tard hier soir dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016. Verdict qui ne satisfait ni les plaignants ni les prévenus. Et puis Mike Horn coincé en plein milieu de l'Arctique. L'explorateur va recevoir l'aide de 2 Norvégiens partis à sa rencontre. La météo, Céline Dacosta. Outre le froid terrible en ce jeudi, de la grisaille encore pour la moitié nord.
Oui, c'est vrai. Le froid, 2 à 7 degrés en moyenne cet après-midi pour la moitié nord, 9 à 13 pour la moitié sud. Les brumes s'installent, vous l'avez dit, la grisaille, c'est pour toute la moitié nord. Il reste encore du soleil sur la moitié sud, mais c'est couvert sur les Pyrénées-Orientales avec encore un peu de pluie.
Merci Céline Dacosta. On vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et c'est le symbole, Pierre, de la France. Dans le monde entier, la Tour Eiffel est fermée. Aujourd'hui, en cause, la grève. Les touristes ont forcément du mal à comprendre.
Et on va rejoindre tout de suite Théo Manval au pied de la Tour Eiffel. C'est vrai que pour nous, c'était prévisible, mais pour le reste du monde, ça reste un mystère.
Oui, en tout cas, quand vous venez de faire une journée entière d'avion depuis les Philippines et que vous arrivez devant des panneaux monuments fermés, un parvis désert, il y a une pointe de déception chez Rolène et Rachel.
Non, on ne savait pas, on vient de le découvrir ici.
C'est triste, on a fait tout le voyage. C'est notre première fois à Paris. C'est le monument le plus célèbre. On arrive et il est fermé.
Peut-être que demain on aura plus de chance.
Même espoir pour ce couple d'Anglais qui venait s'offrir un cadeau en cette journée brumeuse.
On est là pour l'anniversaire de ma femme. Mais bon, de toute façon, on n'aurait pas vu grand-chose d'en haut aujourd'hui avec ce brouillard.
Mais finalement, on n'ira nulle part.
Bien sûr, on est un peu déçus, mais bon, leur grève est pour de bonnes raisons. Je crois que beaucoup de gens les soutiennent, donc je leur souhaite bonne chance.
Voilà, solidaires, nos voisins britanniques, tout comme René, venu des États-Unis, qui espère pouvoir revenir quand même d'ici la fin de son séjour à Paris ce week-end. Mais qui se consolera avec d'autres visites aujourd'hui dans cette très belle ville, dit-elle. Le musée du Louvre, par exemple, reste ouvert, même si certaines salles sont fermées. Attention, le musée d'Orsay et le château de Versailles gardent eux aussi porte close aujourd'hui avec la grève.
Merci Théo Manval. Au pied de la Tour Eiffel pour Europe 1, des étrangers. Il y en a aussi Gare du Nord avec l'arrivée de l'Eurostar et du Thalys, mais c'est aussi l'un des épicentres du flux de franciliens qui tous les jours viennent travailler dans le centre de la capitale. Jeanne Bergaoui, vous êtes sur place dans une gare du Nord que vous qualifieriez de fantôme.
Exactement. Étonnant spectacle hein, que ce hall est déserté. Alors que d'habitude, on joue des coudes pour se faufiler dans cette gare très fréquentée. Au stand de Taïeb, les clients défilent au compte-gouttes.
C'est assez impressionnant, quoi. On est une dizaine de salariés. Sur les 10 salariés, on n'est que 2 là. Donc on va ouvrir jusqu'à 14h, 15h. Après, on fermera derrière.
Alors ici, peu d'usagers perdus. Les gilets rouges, ils sont une dizaine déployés, semblent presque trop nombreux hein, pour les quelques clients. Mais il fallait anticiper, justifie Valérie, qui travaille à la SNCF en gare du Nord.
On ne sait jamais comment les clients vont se comporter le jour J, donc c'est important d'être présent, de pouvoir être à leur écoute et leur donner toute l'information possible. Mais même les touristes ont eu l'air d'avoir l'info, puisqu'on n'a pas rencontré tant de personnes qui étaient perdues.
La gare du Nord, qui se prépare maintenant à la manifestation contre la réforme des retraites. À l'extérieur, devant le parvis, le cortège commence déjà à grossir. Et à l'intérieur, les forces de l'ordre quadrillent le hall. Ils opèrent des fouilles préventives. En cas de débordement, la gare fermera ses portes.
Merci Jeanne. D'ailleurs, la situation semble être la même gare Saint-Lazare, hein, voisine, où nous dit-on les gilets jaunes de la SNCF sont aussi nombreux que les voyageurs. Ça vous donne une idée. Merci Jeanne Bergaoui en direct de la gare du Nord à Paris.
Et plus au nord encore, Pierre, à Lille cette fois. Situation compliquée, Lionel Gougelot, dans ce même journal hier midi, vous nous annonciez un chaos en gare mais aussi sur les routes. Qu'en est-il ce matin ?
Alors, la SNCF avait annoncé un trafic quasi nul, hein, je vous le disais, sur le réseau TER. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que j'ai constaté ce matin dans une gare de Lille-Flandre déserte. Alors, malgré un ou deux TGV pour Paris au petit matin et au hasard de la matinée, un TER. Eh oui, un TER avec à son bord quelques voyageurs chanceux.
On a attendu 20 minutes. C'était un train qui était prévu à 9h45 de ce clin et il est passé à 10h10 à peu près. Mais on est arrivé.
Vous avez de la chance, vous.
On a beaucoup de chance.
Oui. Je pense que je vais faire un loto aujourd'hui.
Et pour ce soir ?
Pour repartir 16h36, le seul.
Il ne faudra pas le louper, celui-là.
Non, non, okay. Non.
Alors sur l'ensemble du réseau, il y a eu 9 TER hein, en circulation ce matin. Ces voyageurs que j'ai rencontrés ce matin ont découvert un centre-ville de Lille plutôt calme. Peu de circulation, des transports en commun, notamment des bus perturbés certes, mais pas d'usagers en perdition. Visiblement, les Lillois ont bien anticipé cette journée noire. Même sur les routes, ce chauffeur-livreur a observé une circulation plutôt fluide.
Moi j'ai l'impression que ça comme un dimanche quoi. Sur Lille ça va. Sur le périph, tout, ça roule nickel. Après, c'est sur les grosses zones que ça bloque.
Alors ces grosses zones, comme ils disent, c'est le centre de transport de l'Équin, des ronds-points d'accès aux zones d'activité de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer, où des barrages filtrants ont été installés avec quelques perturbations. Une opération escargot est également en cours entre Lens et Arras. Des actions ponctuelles avant une grande manifestation cet après-midi dans le centre-ville de Lille.
Merci pour ce point très complet. Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. Autre illustration à Libourne, ville moyenne de Gironde. Et pour tous les habitants eh bien des villes de cette taille, il n'y a pas d'autre solution que la route. Hein, Stéphane Place.
Oui, ici à Libourne, à une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux, la gare SNCF est carrément fermée, pas de TER. Alors les nombreux habitants du secteur qui ont l'habitude de se rendre en train dans l'agglomération bordelaise où ils travaillent ont dû trouver une autre solution. Sarah vient de repérer l'automobiliste qui arrive. C'est bien son rendez-vous pris sur une application de covoiturage.
Blablacar. Voilà, covoiturage tout simplement, en dernière minute, en express. Donc voilà, pour aller travailler. Donc elle me dépose sur Bordeaux.
Plus inquiète, patientant devant la gare Libourne, Maud, qui généralement monte dans un train pour rejoindre son poste à Senon, guette l'arrivée du car qui doit lui permettre d'effectuer le trajet.
La solution, c'est de prendre un bus visiblement qui est annoncé, mais qui n'est pas là. Je travaille à Senon, banlieue de Bordeaux. Je comprends la colère, donc je comprends. Et je prends sur moi par rapport à ces difficultés de transport.
Pas de train aujourd'hui pour se rendre à Bordeaux. Ces Girondins, comme Geoffrey, s'interrogent déjà sur la suite du mouvement.
Tout le mois de décembre, personnellement, je pense que ça va être très perturbé. Mais la question, elle va se poser tous les jours. Est-ce qu'il faut se lever plus tôt ? Bon, ça, encore, ça va. Mais est-ce que je vais arriver à l'heure tous les jours à l'entreprise ? Comment ça va se passer ? Donc, c'est une situation assez embêtante.
Comment s'organiser si la grève se prolonge ? C'est la question que se posaient tous ceux que nous avons croisés ici ce matin.
Merci Stéphane Place à Libourne pour Europe 1.
Sans oublier aussi le grand quartier d'affaires parisien, à savoir la Défense. Justin Morin, finalement, c'était plutôt calme ce matin ?
Ah oui, visiblement, les travailleurs de la Défense, connus pour leur grande faculté d'adaptation, ont été fidèles à leur réputation. On peut dire merci au télétravail, hein, beaucoup de salariés sont restés au chaud chez eux. Pour les autres, il a simplement fallu anticiper.
Je suis venu en voiture, en fait.
J'ai pris un bus d'une société privée.
Un Uber, tranquille, avant qu'il y ait trop de monde, 2 heures à l'avance.
Je viens en vélo, donc ça m'a pas posé de soucis pour venir.
Et moi en voiture, mais je suis parti très tôt, donc ça a bien roulé.
Quant à ceux qui ont quand même tenté la ligne 1, automatisée et donc en marche, ou les quelques RER A en heure de pointe ce matin.
Dans le métro, il n'y a personne. Là, j'ai mon train, tout va bien. Je pense que les gens se sont débrouillés autrement.
C'est plutôt bien.
Maintenant, c'est la suite qui pose question.
Le retour, oui. Oh, ouais. On n'a pas envie de rentrer à 10h le soir.
Audrey, elle travaille dans la Grande Arche. Elle s'est payé le taxi surtaxé ce matin pour venir, une fois, mais pas deux.
Ça coûte un peu cher, mais bon, après, demain, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Vu qu'on n'a pas d'infos, on ne sait pas trop, donc on verra. Vivement le week-end, quoi.
Ici, la matinée s'est donc passée plutôt dans la bonne humeur, mais l'état d'esprit pourrait bien changer si la mobilité ne faiblit pas.
Merci Justin Morin. Et puis, nous vous le disions, c'est aussi la grève dans les écoles. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avait projeté 55% de grévistes dans tout l'Hexagone et 78% en Ile-de-France.
Virginie Reva, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Quelle est finalement la situation dans les classes ?
Écoutez, on en sait plus sur la mobilisation dans le primaire car à l'instant, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale sont tombés. La moyenne des grévistes dans le premier degré est de 51%. C'est un peu en dessous de ce que le ministre annonçait hier puisqu'il parlait de 55% sur tout le territoire. À l'instant, le SNUIPP, le syndicat du primaire, réagit. Eux restent sur un chiffre qui est ce matin de 67%. Alors dans le second degré, là, c'est plus faible avec 42% de grévistes. Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres de la mobilisation de Paris qui devait être de 78%, mobilisation bien au-dessus de la moyenne nationale. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en tout 46% de grévistes parmi les enseignants aujourd'hui. Alors, pour demain, à ce stade de la journée, c'est le flou. Au rectorat de Paris, Créteil et Versailles, on nous dit que c'est l'inconnu, qu'il va falloir attendre 18 heures. Et puis, autre difficulté, pour les enseignants qui ont déposé 48 heures à l'avance un préavis de grève illimité, là, il n'y a aucune obligation de déclarer qu'on reconduit la grève et donc aucune possibilité de savoir si demain ils seront en grève.
Merci de ces dernières précisions, Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Je reviens un tout petit instant sur la situation des trains, puisque les rares TGV qui circulent entre Paris et Marseille sont détournés sur la voie classique et non pas la voie TGV. Donc évidemment, ils roulent beaucoup plus lentement et ce, après un sabotage, en tout cas, c'est ce que dit le préfet de la Drôme, Hugues Moutou, le préfet de la Drôme, qui dit qu'une installation électrique qui alimente la ligne à grande vitesse au niveau de Chabrian a donc été sabotée par des gens qu'il qualifie de voyous.
Et limité 11. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. On continue notre page spéciale sur cette journée de grève. Direction les cortèges de manifestants. A tout de suite. Europe 1. Il est midi 13, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin. Journée de grève, Pierre, et journée de manifestation aussi.
Oui, je vous le disais en titre, hein, la province a donné le la ce matin en matière de manif avant le grand cortège qui s'élancera tout à l'heure à Paris, 14h, Gare du Nord. Hein, déjà près de 3000 contrôles préventifs effectués par les forces de l'ordre. Nathalie Chevance, vous êtes à Marseille, dans le centre, avec beaucoup, beaucoup de monde. Hein.
Oui, un immense cortège ici à Marseille, le Vieux-Port, noir de monde. On a même du mal à se frayer un passage. Des milliers de manifestants, 300 préavis de grève déposés pour aujourd'hui, une centaine déjà reconductibles pour demain dans tous les secteurs, avec une forte mobilisation des salariés du privé comme Coca-Cola, McDo ou encore Eurocopter, où travaille Rémi.
Ils veulent nous faire travailler beaucoup plus vieux et ils veulent nous faire partir à la retraite beaucoup plus pauvres. Il est absolument hors de question que ni les travailleurs de l'aéronautique ni les travailleurs tout court de toute branche acceptent ce genre de recul. Crevé au boulot, il y en a ras-le-bol. Quoi.
Même mobilisation dans le secteur public, enseignants, agents hospitaliers, administratifs, Magali, secrétaire et déterminée.
Pour défendre ma retraite et celle de mes enfants et celle de mes parents. Toutes les générations, puisque c'est le principe du système par répartition. Je ne suis pas là pour défendre mon privilège, je suis là pour défendre un système de société où on s'occupe les uns des autres et pas chacun pour sa gueule.
Vous êtes prête à faire grève longtemps encore?
Jusqu'à ce qu'ils cèdent.
Ça va vous coûter cher?
Ça me coûtera moins cher que de ne pas avoir de retraite.
Et dans le cortège, Jean-Luc Mélenchon qui constate déjà la même mobilisation qu'en 1995.
Ils n'ont pas envie de faire juste une journée d'action. Ils ont envie d'aller au bout du conflit et que l'autre retire son projet. Clairement, l'économie du pays va prendre un coup, mais il ne faut quand même pas mettre ça sur le dos des gens qui se défendent.
Et d'ores et déjà, une nouvelle manifestation est prévue ici à Marseille samedi, à l'appel notamment des Gilets jaunes et de la CGT.
Merci Nathalie Chevance dans le cortège marseillais. Et vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Il a également déclaré que même Marine Le Pen appelait à manifester et que c'était en quelque sorte un progrès en direction de l'humanisme. Fin de citation.
La question qui se pose évidemment, Pierre, c'est cette grève, elle va durer jusqu'à quand? Les assemblées générales ont lieu justement en ce moment.
Dans les centrales syndicales et notamment chez les cheminots, Aurélien Fleureau, vous êtes en direct de la gare de Lyon. A-t-on un début de réponse?
Alors ici, l'Assemblée Générale vient de se terminer et tout le monde est très remonté dans les discours, c'est net, le mouvement va durer. C'est un bras de fer qui s'engage avec le gouvernement, même pour ceux qui ne se mobilisent pas forcément d'habitude, à l'image d'Aurélien qui travaille à la gestion du réseau à la gare de Lyon.
Malheureusement, ça risque de durer un moment puisque on a vraiment en face des gens qui se disent inflexibles. Donc j'ai bien peur que ça dure un moment, ouais.
Donc là, la grève sera reconduite pour demain et très certainement pour plusieurs jours.
Certainement, on voit mal d'ici lundi des paroles rassurantes du gouvernement. Au contraire, hein, ces derniers jours, les propos se sont plutôt durcis, on va dire, vis-à-vis des potentiels grévistes. Donc je ne vois pas comment lundi on pourrait pas être en grève si on n'a pas obtenu d'évolution et de garantie.
Donc côté SNCF, de nombreux AG à Paris et en région ont reconduit la grève pour 24 heures avant de se diriger ensuite vers les différentes manifestations. Le taux de grévistes vient d'être donné par la direction de la SNCF, plus de 55%. C'est bien plus élevé qu'en 2018 par exemple, et ça va même jusqu'à 85% chez les conducteurs. Du côté de la RATP, alors là, dans de nombreux dépôts, dans de nombreux centres, d'ores et déjà, les agents ont reconduit la grève jusqu'à lundi inclus. C'est ce qu'a notamment fait savoir l'UNSA RATP, le premier syndicat du groupe. Les prévisions de trafic précises pour ces deux entreprises seront connues cet après-midi aux alentours de 17h.
Merci Aurélien Fleureau en direct de la gare de Lyon. En effet, 55% de grévistes en moyenne, 85% de conducteurs et 73% de contrôleurs.
Et l'exécutif dans tout ça, me direz-vous, eh bien, quelle est sa réaction devant une mobilisation d'ampleur ? Jean-Rémy Baudot, vous êtes à l'Élysée, que dit-on là-bas ?
Et Raphaël, ici à l'Élysée, pas question d'avoir l'air de subir cette journée de mobilisation sociale. Les éléments de langage sont très convenus. Le président est déterminé et calme, attentif au respect de l'ordre public, nous livre un proche du chef de l'État. Emmanuel Macron qui explique à son entourage ne pas varier, dit vouloir maintenir son engagement présidentiel. Il faut bâtir l'État-providence du 21e siècle, martèle un conseiller. Reste que tout le monde ici suit la situation au plus près. Les différentes cellules de crise dans les ministères font remonter les blocages dans les transports ou les écoles. Ça n'est pas une journée banal, reconnaît tout de même l'Élysée. Le calendrier reste inchangé pour l'heure. Jean-Paul Delevoye dévoilera le fruit des concertations avec les syndicats lundi ou mardi. On a appris ce matin qu'Édouard Philippe présentera ce qu'ils disent l'architecture générale de la réforme en milieu de semaine prochaine. Emmanuel Macron, lui, n'a pas prévu de s'exprimer sur le sujet, mais selon la tournure des événements, on comprend qu'il ne s'interdit pas d'intervenir lui-même dans les négociations. L'Élysée, qui met toujours en avant le dialogue, affirme que tout reste ouvert. C'est le leitmotiv ici au palais présidentiel. Et pourquoi je terminerai avec cette affirmation d'un proche du président. Je cite, l'écoute et la concertation, ce sont les deux mamelles de l'acte 2.
L'écoute et la concertation, ce sont les deux mamelles de l'acte 2. Merci Jean-Rémy Baudot en direct de l'Élysée pour Europe 1.
Il est midi 19. Europe 1. Une nouvelle pause et dans un instant, le reste de l'actualité, notamment le verdict à Viry-Châtillon et l'opération SOS pour Mike Horn. A tout de suite sur Europe 1. Il est midi 22, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. En 2016, deux voitures de police stationnées à Viry-Châtillon étaient attaquées par une vingtaine de jeunes à coups de cocktail Molotov. Pierre, deux policiers avaient été grièvement brûlés.
Ouais, et hier soir tard, c'est le verdict de ce procès qui est tombé. 5 acquittements et 8 jeunes condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion. Maître Laurent-Franck Liénard est l'avocat de deux policiers attaqués et pour lui, c'est insuffisant.
On ne comprend pas ce verdict. Lorsqu'on tente de tuer un policier, la peine encourue, c'est réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque la cour d'assises dit « on a effectivement essayé de les tuer » et on a essayé de les tuer en les faisant brûler vivants dans leur voiture, on ne doit pas avoir une peine de 10 ans. C'est inconcevable pour des gens qui, au quotidien, risquent leur vie pour nous protéger. Ils attendent de la justice qu'elle les protège. Et là, on a quand même l'impression qu'ils n'ont pas été protégés. Nos clients, ils ont vécu l'horreur absolue.
Et incompréhension également de la partie adverse. Écoutez, maître Déborah Meyer-Mimran, elle est l'avocat d'un des jeunes condamnés à 18 ans.
C'est parfaitement scandaleux. C'était un gamin de 17 ans qui a été complètement broyé par l'enquête et complètement broyé par ce système, par la pression policière, par les syndicats qui appellent à manifester, qui sont là pour faire pression sur tout le monde, qui viennent alors que nous, on a dit aux gamins de la grande bande de rester chez eux pour ne pas attiser la haine. Et des syndicats de police sont là. On a dit aux jurés que leur décision était attendue au ministère de l'Intérieur. C'est ça la séparation des pouvoirs ? En réalité, c'est simplement une décision médiatique. On a des témoins qui ne sont pas venus, un témoin anonyme pour lequel on a recueilli des informations qui étaient plus que douteuses. Et on se retrouve à condamner des gamins pour rien du tout.
Propos recueillis par Guillaume Bier.
Mike Horn, l'aventurier de l'extrême, coincé, Pierre, quelque part en Arctique.
Ça fait 2 mois et demi que l'explorateur est dans cette zone avec un coéquipier norvégien. Mais voilà, ils sont en grande difficulté. 2 Norvégiens devaient leur venir en aide. Où en est-on, Cyril de la Morinerie ? Quelles sont les dernières nouvelles ?
Alors, les nouvelles sont rassurantes. Hein. Mike et Borg ne seront bientôt plus seuls. Ça, c'est important de le signaler. 2 explorateurs norvégiens sont partis à leur rescousse. Ils sont en ce moment sur la banquise à ski avec un traîneau chargé de nourriture. Ils n'ont plus que quelques kilomètres à parcourir avant de les retrouver. Je viens de joindre sa fille Jessica, qui se trouve en Norvège et qui a réussi à parler à son père ce matin.
Mike et Borgé vont bien. Là, ça fait 84 jours qu'ils sont sur la glace. Ils sont vraiment épuisés et à bout de force. Aux dernières nouvelles, ils sont à 8 km des explorateurs norvégiens qui sont partis à ski depuis le Land, donc depuis le bateau qui est parti les récupérer au nord. Donc rassurés, heureux que ça arrive bientôt à la fin de l'expédition.
Voilà, Jessica Horn, joint avec la complicité du journaliste Hugo Clément, hein, qui est là-bas pour l'émission Sur le front pour France 2. Alors il faut rester prudent. Mike Horn et Borgé Ousland ont des gelures aux doigts, aux pieds. Ils ont perdu 15 kilos, ils avancent dans le noir complet, la banquise bouge, ils sont déjà tombés à l'eau, la dérive des glaces pourrait ralentir leur retour, ils devront encore marcher plusieurs dizaines de kilomètres avant d'embarquer sur le brise-glace et avant ensuite de retrouver le voilier de Mike Horn. L'explorateur de 53 ans sera sur la terre ferme, si tout va bien, la semaine prochaine.
Merci de ces précisions, Cyril de la Morinerie. On revient bien sûr à 13h avec un nouveau journal et des précisions sur le cortège parisien qui va s'élancer. Et on nous signale de premières tensions à Nantes et en province dans les cortèges de manifestants contre cette réforme des retraites.
Nous serons évidemment avec nos équipes sur place en direct dans le journal de 13h. On vous retrouve tout à l'heure, Pierre de Villeneuve.